Les chemins de la recherche.
Radio Campus
Grenoble
90.8.
Il y a des villes qui vous éveillent et d'autres qui vous chuchotent leurs secrets. Tokyo, dans le souffle des années 1920, était celle-là. Chaque coin de rue semblait vibrer au rythme des tambours du jazz, des clochettes de tramway et des murmures de la foule pressée. Les néons dansaient sur les façades, les cabarets scintillaient comme des étoiles tombées sur le pavé et les passants aux coupes garçonnes glissaient entre tradition et modernité. Cette ville en pleine métamorphose, l'ordinaire se faisait extraordinaire. Un chat sauf au filon dans la ruelle, un couple qui rit sous un lampadaire, le parfum des cafés mêlé à l'odeur des encens de temple. Chaque instant devenait un fragment, chaque regard une chronique, une mélodie fragile et intense où se croisent l'érotique, le grotesque et l'absurde. Il est 10h sur la 90.8 FM, vous êtes à l'émission Les Chemins de Traverse de la Recherche sur Radio Campus Grenoble. Au programme Héros, Gourou, Nensetsu, trois mots qui ensemble révèlent une esthétique singulière, étrange, magnétique et parfois dérangeante de Tokyo entre les deux guerres. Nous marcherons aujourd'hui dans ces ruelles avec Mariam Viliashvili, doctorante en littérature générale et comparée à l'université Grenoble-Alpes, qui nous dévoilera comment Tokyo est devenu pour ses écrivains un laboratoire de modernité, un terrain de jeu et d'expérimentation littéraire où la ville elle-même devient un récit. Alors, accrochez-vous, Tokyo, entre éclat de modernité et incongruité urbaine, nous attend. Bonjour, Mariam.
Bonjour.
Alors Mariam, dis-nous quels éléments scientifiques t'ont amené à orienter tes recherches vers la littérature japonaise.
Je fais ma thèse en littérature comparée et je m'intéresse à cette écriture très spécifique à la croisée du journalisme et de la littérature, des chroniques urbaines. Et je fais ça à travers un corpus comparatif. J'étudie les textes issus du Japon, de la Russie, des États-Unis et de la France. Et en fait, le point de départ pour ma thèse était justement la littérature japonaise, parce que j'ai lu un roman de Yasunari Kawabata, un écrivain japonais, qui s'appelle « Chronique d'Asakusa », qui raconte la vie dans un quartier de divertissement de Tokyo. Et ce livre avait une structure très intéressante. Il était écrit sur l'ouvrage que c'est un roman, mais ça n'avait pas la forme de roman. C'était plutôt des petits sketchs juxtaposés ensemble, sans vraiment le fil narratif continu ni personnages principaux. Et je me suis dit que c'était intéressant. Et ensuite, j'ai découvert qu'en fait, au début, ce n'était pas un roman, mais que c'était publié comme des chroniques dans un journal quotidien au Japon dans les années 1920 et début de 1930. Et c'était seulement après que ça a été réuni en roman. Et je me suis intéressée justement à cette écriture. Pourquoi écrire régulièrement dans les journaux sur les villes? Et qu'est-ce que ça peut nous dire sur l'écriture de la modernité urbaine? Donc, le point de départ pour ma thèse était la littérature japonaise. Et en plus, dans cette période, le Japon était en plein essor de modernisation. Et la vie était très intéressante à Tokyo. Et c'est justement pour ça que je me suis dit que ça pourrait offrir un corpus très riche pour l'analyse de la ville moderne.
Ah ben c'est très intéressant. Alors, Mariam, il y a des milliers d'oreilles connectées ce matin à Radio Campus Grenoble. Voilà, avec lui, toujours la partie technique et bien sûr, Claire-Lé, dans la discrétion qui nous suit ou pas. Alors, pour ces auditrices et ces auditeurs qui veulent visualiser Tokyo à cette époque, je te propose à présent d'offrir un moment de lecture avec le texte que tu as pu sélectionner pour ces auditeurs.
Oui, je vais vous lire un petit extrait de Chronique d'Asakusa de Kawabata. Asakusa, cœur de Tokyo. Asakusa, marché aux humains. Ce sont les paroles d'Azembo Soda. Asakusa, Asakusa l'universel. Il en sort toutes sortes d'objets vivants. On y voit, à nu, palpiter tous les désirs. C'est une immense marée où se trouvent mêlés divers types et classes d'hommes. À l'aube ou au crépuscule, c'est un flot insondable et ininterrompu. Asakusa vit. Une foule énorme y défile à pas serrés. Ce quartier forgé dans un vieux moule appartient à cette foule et maintenant se transforme complètement. Dans ce vieux moule, l'aquarium est en train de prendre une forme nouvelle. Telles des reliques du temps passé d'Asakusa, l'aquarium et le vivarium ont été laissés tels quels dans le quartier, dans le quatrième secteur du parc. Et les danseuses du Casino Folie doivent contourner le palais du Dragon des œufs avant d'entrer en scène et passer devant les poissons qui s'ébattent. Le peintre Fujita, de retour de Paris, accompagné de son épouse très parisienne, Yukiko, est venu d'assister à cette revue. Si ce spectacle au rythme désordonné, appelé revue et concert de jazz mi-japonais, mi-européen, incarne l'Asakusa de 1929, le Casino Folie, qui s'est lancé dans la spécialité de revue moderne importée, comme il n'en existe pas d'autres exemples à Tokyo, est peut-être caractéristique de l'Asakusa de 1930, au même titre que la tour du restaurant du métro. Érotisme, absurdité, vitesse, humour de bande dessinée d'actualité, chansons de jazz et jambes de femme. L'écho de chansons de Naniwa, diffusée par haut-parleurs depuis le restaurant au sous-sol du Casino Folie, faisait encore plus de bruit que l'orchestre de jazz. Sur scène, c'était le quatrième acte du Jeune homme à la canne, et le décor, le quai de la gare de Shinjuku. Oh, mais les actrices, pour la plupart, ne portent pas de bas. Elles ne peuvent donc pas en acheter, ou bien est-ce parce que ça ne fait pas bien d'en porter ?
Parfait, Dave Brubeck, pour tisser la première toile sonore. Tokyo, trafic, un rythme dynamique et régulier qui rappelle le flux du trafic urbain, des interventions rapides du saxophone et du piano évoquant, ajoute à ce mouvement et modernité, des ruptures et accents rythmiques qui donnent l'impression de klaxon, de croisement ou d'accélération. Du temps avec Brubeck et c'est avec lui que nous allons continuer. Alors Mariam, dis-nous tout au long de cette émission, si tu veux, c'est l'univers musical de Dave Brubeck qui nous sert de fil conducteur. Alors, pourquoi avoir placé notre traversée sonore sous ce signe ?
Alors, j'ai choisi pour cette émission un album de Dave Brubeck qui s'appelle Jazz Impressions of Japan, donc les impressions de jazz du Japon. Et cet album est inspiré de son voyage au Japon. Et dans le livret de l'album, il évoque son voyage et il fournit des détails très touchants de ses inspirations pour chaque morceau. On peut voir cet album comme un carnet de voyage qui nous fournit de petites scènes du Japon et une sensibilité très japonaise, comme si on était en train de lire un poème ou lire la scène dans les chroniques urbaines. Mmh. Donc voilà, j'ai choisi cet album pour ça.
Mmh. Alors, on a trois thèmes, héros, Guro, Netsensu. Alors, pourrais-tu expliquer à tous ces auditrices et auditeurs ce que ces termes signifient concrètement et pourquoi ils sont si emblématiques du Tokyo des années 1920-1930?
Oui, alors, pour le contexte historique un peu, dans les années 1920, Tokyo connaît une transformation extrêmement rapide, notamment après le grand séisme en 1923. Après ce séisme, Tokyo est détruit et donc on commence à le reconstruire. Et cette reconstruction accélère la modernisation. Il y a le développement des transports, expansion de la culture de masse, un nouveau type de l'architecture, diffusion du jazz et du cinéma, donc l'influence de l'Occident. Et après 1923, la ville devient vraiment un espace de l'accélération. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît une expression très emblématique de cette époque, Eroguro Nansensu, qui est inspirée des mots anglais erotic, grotesque, nonsense, donc les absurdités érotiques et grotesques. Et il ne s'agit pas d'un mouvement littéraire ou artistique proprement parlé, mais c'était plutôt une certaine esthétique caractéristique de cette époque. Et ce terme désigne une fascination pour les dimensions étranges, excessives et parfois inquiétantes de la vie moderne à Tokyo de l'époque. Et il y avait cette sensibilité aux formes bizarres, érotiques et absurdes de la modernité. Et c'était très présente dans les médias de masse, donc dans les livres. Il y a vraiment un essor des livres avec les thématiques similaires, mais aussi des magazines, des films, des chansons populaires. Et donc cette esthétique est particulièrement associée à la vie urbaine. Donc on ne le retrouve pas beaucoup dans les autres parties du Japon, mais vraiment la vie urbaine à Tokyo. Et cette esthétique exprime de manière à la fois ludique et critique les aspects séduisants et inquiétants de la vie dans la capitale japonaise. Et dans ses écrits ou dans ce type de chansons, le ton est souvent léger et humoristique, mais ça masque en réalité une critique sociale plus profonde, parce qu'on assiste à ce moment-là à l'émergence de la consommation de masse, l'uniformisation de comportements, des inégalités sociales, et donc c'était peut-être une manière un peu subtile de critiquer ces changements. Et la littérature de Eroguro Nansensu représente la ville moderne sous un angle très chaotique, si on peut dire. On y trouve des scènes marquées par le vacarme, l'alcool, la désorientation, les corps dénudés, etc. Donc tout ce qui est un peu excessif, on va y retrouver. Et dans ses écrits, la ville n'est pas idéalisée, elle devient un espace d'excès, de relâchement, presque d'animalité parfois. Et donc on est dans une forme de vulgarité un peu crue.
Donc ce n'est pas juste du sensationnalisme ou du bizarre pour le plaisir.
Ça dépend. Peut-être un peu, ça fait du sensationnalisme parce que c'était quand même une sensibilité et une volonté de faire exprès pour choquer les lecteurs. Mais comme j'ai dit, on y voit peut-être une manière subtile de critiquer la société en transformation et les côtés inquiétants de la vie urbaine de l'époque.
Alors, Tokiz, thème pour souffler, toujours avec Brubeck. Avec Tokiz, thème Dave Brubeck nous entraîne dans un jazz vif et élégant où le piano et le saxophone dessinent les contours d'une ville en mouvement entre modernité américaine et imaginaire japonais. Alors Mariam, on parle de Kawabata et de son fameux chronique d'Azakusa. Est-ce qu'on pourrait dire que l'écriture de Kawabata agit comme une caméra qui filme les rues, les cafés et les cabarets?
Oui, tout à fait. Il faut peut-être dire que Kawabata, il faisait partie d'un mouvement moderniste qui s'appelait Shinkoge Jutsuha, donc nouvelle école d'art, qui était actif dans les années 1920 et 1930. Et ce mouvement a été inspiré par le modernisme européen et les avant-gardes européennes. Et donc ils adoptaient cet style d'écriture caractéristique du modernisme. Donc, du modernisme et du roman urbain moderniste. Donc, la juxtaposition de petites scènes, la simultanéité des événements qui se passent, ce rythme un peu accéléré. On retrouve tout ça chez Kawabata. Il y a une polyphonie des voix. Et en fait, c'est intéressant qu'à cette époque, il y avait ce type d'écriture qu'au Japon, on appelait ça les sketchs urbains. Et les sketchs urbains, dans la littérature japonaise, désignent une forme justement moderniste qui cherche à capturer la vie quotidienne. Et c'était des petits récits publiés régulièrement dans les journaux qui étaient à la croisée du journalisme et de la littérature. Donc on s'inspirait des faits réels qui se passait à Tokyo de l'époque, et on utilisait ces techniques modernistes pour capturer cette réalité et créer un effet de reportage. Et donc l'objectif était de révéler l'absurde et le grotesque dans les situations les plus ordinaires. Donc cette forme brève de la chronique ou du sketch urbain annoncer directement les procédés du roman moderniste, et on peut dire que oui, il y a peut-être cette influence du montage du cinéma quand on voit des petites scènes comme le caméra qui se déplace et qui nous montre ce qui se passe dans les rues.
Alors, on remarque que la question du temps et bien sûr de la relation intime semble constituer un axe central de ta réflexion. Et alors, en quoi ces paramètres structurent-ils la spécificité, on va dire, de ce mouvement artistique?
Je pense qu'à cette époque, le rapport au temps change à cause de cette accélération des rythmes de vie. Et dans ce type de texte, on n'est plus vraiment dans un temps linéaire et continu, comme dans le roman réaliste du 19e siècle. Le temps est plus fragmenté, discontinu, parfois même chaotique. Les scènes s'enchaînent sans transition claire. On passe d'un café à une rue, d'une danseuse à un mendiant, etc. Et donc cette discontinuité correspond très bien à l'expérience moderne de la ville, parce que la métropole impose un rythme rapide, les trains, les foules, la circulation. Et donc je pense que la chronique urbaine embrasse bien cette temporalité et elle ne cherche pas à construire une grande narration cohérente, mais plutôt à capter des moments éphémères. Donc il y a ce rapport au temps qui est intéressant et on peut dire que c'est une écriture de l'instant, presque photographique ou cinématographique. Et pour la relation intime, je ne sais pas, peut-être ça a aussi des conséquences sur la représentation des relations humaines en général, parce que dans les grandes villes, il y a l'anonymat qui est plus présent. On n'a plus le temps de créer des relations plus durables, et que ce sont souvent des relations très éphémères, un inconnu qu'on rencontre dans la rue et qu'on ne va pas recroiser plus. Donc voilà, je pense que ce forme de sketch est très adapté à ça.
D'accord. On va encore souffler avec Dave Brick dans The City Is Crying. Thank you. Construit comme une balade, lente et expressive, piano sobre et méditatif. Au début, saxophone alto, très doux, rythme léger avec les balais sur la batterie. Cette texture qui crée l'impression de pluie qui tombe, ville silencieuse, émotion intérieure. C'était The City's Crying, la ville pleure toujours de Brubeck. Alors nous revenons avec l'intervenante du jour et bien sûr nous souhaiterons savoir maintenant est-ce que le Teuk Awabata a-t-il survécu dans la culture japonaise contemporaine et que représente-t-il aujourd'hui?
Alors, Kawabata, oui, c'est lui-même, c'est un grand classique japonais et il est le prix Nobel de littérature de 1968. Donc, son influence sur la littérature japonaise est très grande. Par contre, le reste de son œuvre est très différent de Chronique d'Asakusa. Donc, c'est vraiment très singulier dans son œuvre et c'est ça aussi qui m'a intéressée. Mais si on parle en général de ce mouvement artistique ou cette esthétique de Eroguro Nansensu, c'était vraiment très caractéristique de cette époque seulement, de l'entre-deux-guerres, parce que après le début de la Seconde Guerre mondiale, cette atmosphère de liberté relativement libérale qui avait permis l'essor de cette culture a progressivement décliné et s'est étouffée parce que la littérature, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, était orientée plutôt vers ce qu'on appelle la littérature de politique nationale au service de l'idéologie impériale. Donc cette liberté qui existait dans l'entre-deux-guerres pour écrire sur ce qui est érotique, grotesque et absurde, ça a été censuré et on ne voyait pas ça tant que ça après. Mais il faut attendre des années 1970 quand on commence à redécouvrir les auteurs de cette période et à faire des recherches sur eux. Et même aujourd'hui, ça reste largement inconnu. Donc, on connaît Kawabata, bien sûr, mais les autres auteurs de son cercle moderniste, ça reste quand même assez oublié. Mais on peut dire que voilà, cette esthétique de Eroguro Nansensu est un phénomène caractéristique de cette période qui s'étouffe après.
Alors Marem, une anecdote, voilà, ça vient finalement, sur Kawabata et ses contemporains.
Alors je ne sais pas si c'est une bonne anecdote ou non, mais pour illustrer que cette esthétique de cet érotisme grotesque et absurde était présent pas seulement dans la littérature, mais aussi imprégnait vraiment l'imaginaire culturel de l'époque. On peut dire que on retrouve cette esthétique dans la culture des cafés des années 1930. Donc il faut savoir qu'à Tokyo, à l'époque, il y avait deux grands pôles culturels qui se développaient en parallèle. C'était Asakusa, dont parle Kawabata. C'était un quartier de divertissement où il y avait plutôt la culture de revue théâtrale. Il y avait par exemple un cabaret qui s'intitulait Casino Folie, qui était directement inspiré du nom du théâtre parisien Folie Bergère. Et donc c'était le cabaret où on voyait souvent des spectacles de revue. Et donc Asakusa, c'était plutôt ça. Et il y avait un autre quartier qui s'appelle Ginza, où c'était plutôt la culture des cafés. Mais ces cafés ne servaient pas seulement du café, ils mettaient aussi en scène l'érotisme des serveuses comme partie intégrante de l'expérience. Et progressivement, on a commencé à proposer des services à caractère sexuel aux clients dans ces cafés. Et dans cette période, au Japon des années 1930, on parle de l'âge de la vitesse et l'âge de l'érotisme. Et comparé aux maisons closes traditionnelles, ces cafés offraient une forme de relation plus rapide, plus accessible et perçue comme plus moderne. Et les conditions de travail y étaient également très différentes. Donc les femmes pouvaient être embauchées par annonce et quitter leur emploi plus librement. Et ça attirait de nombreuses jeunes femmes, mais aussi une clientèle jeune. Ces lieux marquent profondément l'imaginaire de l'époque. Beaucoup d'écrivains écrivaient sur ce sujet et utilisaient ces cafés dans leurs romans ou les sketchs urbains. Mais avec l'intensification de la guerre et l'importation du café devient difficile et ces établissements ferment progressivement. Et ensuite, en 1944, il y a une décision du gouvernement pour fermer tous les cafés qui offraient des services similaires. On peut également mentionner qu'il y a un autre phénomène révélateur. Il existait les expositions d'hygiène, si on peut traduire comme ça. Et ces expositions étaient organisées à travers le Japon. Et sous couvert de l'éducation sanitaire, elles présentaient parfois des spectacles proches du freak show contemporain. Et ça mêlait pédagogie, curiosité scientifique et dimension érotique ou grotesque. Et ce type d'événement apparaît aussi dans les sketchs urbains de l'époque. Et ça montre que cet eroguro nonsense traverse l'ensemble de la société urbaine de l'époque. Une autre anecdote aussi peut-être, c'est que...
C'est toujours bon, c'est intéressant. N'est-ce pas lui ?
Oui, c'est peut-être, on peut dire que Kawabata, en 1924, il fonde... la revue de l'avant-garde qui s'appelle Bunkai Jidai. On peut traduire ça comme l'époque de la littérature. Et cette revue devient le porte-voix du mouvement Shinkankakuha, qu'on peut traduire comme l'école des sensations, école de sensations nouvelles, dans lequel Kawabata joue un rôle majeur. Et il rédige lui-même le manifeste de ce groupe, affirmant que pour donc le destin de ceux qui pensent à l'avenir est d'abandonner le passé et de renoncer au présent. Et donc c'était le mouvement d'avant-garde qui était très fortement inspiré par le cubisme, l'expressionnisme et le dadaïsme de l'Occident. Et leur objectif était de renouveler l'écriture en explorant des perceptions nouvelles, plus directes et plus sensorielles. Ils s'opposaient à la littérature traditionnelle qui était plutôt inspirée du naturalisme. Et donc, ils cherchaient ces nouvelles sensations pour ressentir les choses de manière plus intuitive. Et ils adoptaient aussi un principe... l'art pour l'art, qui était aussi caractéristique de l'avant-garde européen. Et ce qui est intéressant, c'est que ces auteurs du mouvement s'intéressent aussi au cinéma, considéré comme un art de la perception. Et donc, ça permettait de ressentir ces nouvelles sensations. Et par exemple, les artistes de ce mouvement ont contribué à la création d'un film d'avant-garde qui s'appelle « Une page folle ». En 1926. Et ce film est considéré comme le premier film d'un courant néo-sensationniste au Japon et présente une évidente influence du cinéma expressionniste allemand. Et en fait, c'est Yasunari Kawabata qui est crédité de l'idée originale dans ce film. Et il est aussi souvent cité comme le scénariste du film. Et une version du scénario est imprimée dans ses œuvres complètes dans les ouvrages. Donc, voilà.
Bien. Osaka Blues. plus dynamique que Osaka Blues, tempo assez vif, saxophone énergétique, piano incisif. Le morceau repose sur une structure blues, mais Brubeck y ajoute une dimension modale et expérimentale. Alors Mariam, on va revenir sur l'anthologie des récits, ou bien on va dire des récits de Kawabaka. Alors, dis-nous un peu.
Oui. Donc, comme nous avons dit, cette esthétique de Eroguru Nansensu était caractéristique des mouvements modernistes, dont Kawabata faisait partie. Et en 1930, paraît l'anthologie intitulée Modern Tokyo Rondo, donc la rondo ou la valse du Tokyo moderne. Et cette anthologie était consacrée à Tokyo et regroupait des récits urbains de 12 auteurs de cette nouvelle école d'art. Et Chronique d'Asakusa de Kawabata y figure également. Et ces récits qu'on retrouve dans cette anthologie sont aussi typiquement nansensu ou eroguru nansensu. On ne cherche pas à expliquer la ville ni à moraliser, mais plutôt à plonger le lecteur dans une expérience sensorielle, immédiate, parfois absurde, souvent dérangeante, mais toujours significative. Et ces récits montrent comment la littérature peut devenir un véritable laboratoire de la modernité, et on peut non seulement décrire ce qui se passe, mais aussi on peut prendre la ville et en faire un espace d'expérimentation moderniste de l'écriture. À travers des fragments, des scènes de rue et des figures urbaines, ces écrivains dans cette anthologie vraiment essaient de saisir l'expérience sensible d'une ville moderne, en mutation rapide, entre fascination pour l'Occident et redéfinition d'une identité japonaise. Et peut-être ce chaos qu'on retrouve dans ces textes raconte quelque chose de la modernité, que c'est, on y voit une ville saturée de signes, de bruits, de corps, etc.
Kawabata, finalement, quelle était la place centrale qu'il donnait à la femme?
À la forme ou
à la femme,
à la femme.
Oui.
Bon, c'était des scènes assez, comment dire, avec un regard très, dans Chronique d'Asakusa en tout cas, avec un regard assez érotique. Donc on voyait dans l'extrait qu'on a lu au début, oui, il y avait des danseuses avec des jambes nues. Et donc, il y a plusieurs moments comme ça. Il y a des danseuses européennes aussi qu'il décrit avec beaucoup de sensualité. Mais c'est toujours le regard un peu comme ça, un peu de Eroguru Nansensu. Mais dans ses autres œuvres, c'est très différent. Dans ses autres œuvres, on voit plutôt un regard lyrique. Il a des personnages de femmes très, très intéressantes. Mais dans ce roman, Chronique d'Asakusa, c'est différent, très caractéristique de l'époque, comme on a dit.
D'accord. Alors, on tire, on va dire allègrement, à la fin de cette émission. Et Mariam, si tu devrais, on va dire, formuler en une proposition unique ce que le terme Eroguru Nansensu reconfigure dans notre rapport perceptif et cognitif au monde, alors quoi serait-elle?
Je ne dirais pas peut-être que l'Eroguru Nansensu reconfigure fondamentalement notre rapport au monde. Peut-être il s'agit plutôt d'une esthétique caractéristique d'un moment historique précis, mais cette esthétique est quand même précieuse parce qu'elle nous permet de mieux comprendre les processus artistiques et culturels des années 1920-1930 au Japon. Et il révèle comment une société en pleine modernisation rapide a tenté d'exprimer ses tensions, ses désirs, ses excès, ses contradictions. Donc, autrement dit, c'est Eroguro Nansensu ne transforme pas forcément notre manière de percevoir le monde aujourd'hui, mais il nous aide à saisir comment le monde était perçu à un moment charnière de l'histoire japonaise.
Et peut-être est-ce cela finalement que nous laisse Tokyo, une ville qui ne se contente pas d'être traversée, mais qui se raconte par fragments, par éclats, par, on va dire, étrangeté. Merci beaucoup, Mariam, d'être passée nous voir.
Merci
pour on va dire, ce retour dans le Tokyo d'hier. Alors donc, dans les pages, bien sûr, des écrivains de l'ère moderne, comme dans les rues bruissantes de la métropole, l'héros, le gourou, Nesentu, nous rappelle que la modernité n'est jamais lisse. Elle est faite de désirs, de dérèglements, d'humour absurde et de regards décalés sur le monde. Alors vous étiez bien sûr à l'écoute de Radio Campus Grenoble sur la 90.8 FM dans l'émission Les Chemin de traverse de la recherche. Merci encore à Mariam Villachivili pour cette promenade littéraire dans le Tokyo des années folles. Et d'ici là, ouvrez bien sûr l'œil, la vue parle. Pour qui sait l'écouter, ciao ciao.
De la recherche.
Radio Campus. Grenoble.
90.8.